Bonjour Thomas.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et on ouvre ce journal avec les résultats semestriels de PSA qui plaisent beaucoup au marché. Antoine Larigauderie, bonjour.
Bonjour.
Alors Antoine, les ventes ont reculé au premier semestre. En revanche, la marge, elle, est au plus haut. Et ça, les marchés apprécient.
À chaque année, son record. Hein. C'est un petit peu le théorème PSA. Il y a un an, jour pour jour, le marché automobile était pour le coup alors très très dynamique. PSA affichait une marge opérationnelle historique à 7,8%. Et alors 12 mois après, le marché automobile s'est complètement retourné. La conjoncture est vraiment mauvaise. Eh bien, PSA fait encore plus fort avec une marge qui culmine désormais à 8,7%. Bénéfice net en hausse de quasiment 24%. La recette du succès de PSA, c'est d'oublier la course au volume et la baisse des ventes de 13% enregistrée cette année en témoigne pour se consacrer à une tâche, maximiser la valeur de chaque modèle qui sort des chaînes. Et c'est notamment grâce au succès des SUV que tout cela est possible, notamment chez Peugeot, mais surtout chez Citroën. En ce moment, Citroën qui est devenu le véritable vecteur de dynamisme du groupe ces derniers mois. Ça permet à Carlos Tavares de se dire très confiant dans la capacité du groupe à relever les défis actuels. Le second semestre sera d'ailleurs marqué par un enjeu très important, le lancement commercial de la nouvelle version de la 208. C'est la deuxième voiture la plus vendue de France et on mise beaucoup dessus chez PSA. Mais PSA prend acte aussi du fait que le marché va reculer peut-être plus que prévu. Il a même revu à la baisse ses prévisions de marché européen de stable. Il est attendu maintenant en baisse de 1%.
Merci beaucoup Antoine. Et puis toujours dans le secteur automobile, on a en revanche deux constructeurs qui tirent la langue ce matin. Et d'abord Nissan. Nissan qui, d'après Reuters, devrait annoncer demain à l'occasion de ses résultats du premier trimestre plus de 10 000 suppressions de postes à travers le monde. Ce plan social inclurait les 4 800 suppressions de postes qui avaient déjà été annoncées au mois de mai. Nissan devrait réaliser cette année son plus mauvais exercice depuis 11 ans. Et le groupe confirme ce matin les informations de la presse japonaise qui annonce que le résultat opérationnel au premier trimestre a chuté de 90%. Et puis alors ça va mal aussi chez Daimler. Daimler qui publie au deuxième trimestre sa première perte trimestrielle depuis 10 ans. 1,2 milliard de pertes au deuxième trimestre. Daimler met ses mauvais résultats sur le compte de charges exceptionnelles de plus de 4 milliards d'euros. Mais le constructeur a quand même fait 4 profit warnings ces 12 derniers mois. Daimler est plombé par les coûts liés au Dieselgate et par les remplacements des airbags de Takata. Résultat, Daimler s'engage à faire encore plus d'économies. Et puis à suivre également pour refermer cette page automobile, des résultats très attendus tout à l'heure de Tesla pour le deuxième trimestre. Ce sera tout à l'heure donc à Wall Street. Et puisqu'on parle d'industrie, eh bien ça cale malheureusement un petit peu partout en zone euro au mois de juillet. Le PMI de la zone euro reste positif, mais il recule par rapport au mois de juin. Et puis surtout, il est au plus bas depuis décembre 2012 dans l'industrie. Idem en Allemagne, où le PMI manufacturier a encore reculé et il est maintenant au plus bas depuis juin 2012. Et puis en France, l'activité dans le secteur privé reste positive au mois de juillet, mais elle recule assez nettement par rapport au mois de juin. Et puis l'INSEE va par ailleurs dans le même sens que les PMI, puisque l'Institut nous dit ce matin que le climat des affaires a légèrement reculé au mois de juillet, notamment dans l'industrie et dans les services. Sinon, vous le disiez Stéphanie, c'est évidemment le grand jour en Grande-Bretagne. Boris Johnson va rencontrer la reine d'Angleterre cet après-midi et devenir officiellement le nouveau Premier ministre britannique. Il succède à Theresa May qui va répondre aujourd'hui pour la dernière fois aux questions des députés à la Chambre des communes. Delphine Yu, bonjour, vous êtes sur place à Londres pour BFM Business. Quel bilan les Anglais font-ils du mandat de Premier ministre de Theresa May ?
Mais écoutez, je ne sais pas si Theresa May entrera dans les livres d'histoire, mais en tout cas, je suis certaine qu'on se souviendra de deux choses. Hein, c'est de son sens de l'abnégation et de sa formidable résilience, hein, cette capacité à encaisser les coups sans jamais se plaindre ni broncher. Beaucoup d'observateurs politiques ont attribué cela au fait qu'elle était fille de pasteur. Mais tout cela ne pourra pas faire oublier qu'elle a commis deux erreurs fatales. La première erreur, c'est d'avoir opté tout d'abord pour un Brexit dur, et cela dès le départ, c'est-à-dire elle s'est fixée deux lignes rouges, hein, la sortie de l'union douanière, la sortie du marché unique, et à vouloir caresser les europhobes de son parti dans le sens du poil, eh bien, elle s'est privée du soutien des conservateurs europhiles, des travaillistes modérés, et puis surtout, eh bien, ces deux lignes rouges ont fait ressurgir, hein, le problème de la frontière nord-irlandaise. Et puis deuxième décision fatale, hein, ça a été celle d'organiser des élections anticipées. Non seulement elle a perdu sa majorité absolue, mais elle a dû ensuite obtenir le soutien et dépendre, hein, des unionistes nord-irlandais du DUP, hein, cette dizaine de députés qui lui ont fait payer très cher leur soutien et qui se sont opposés au dispositif qui avait été trouvé avec l'Union européenne justement sur cette frontière irlandaise. Elle laisse donc aujourd'hui la place à quelqu'un qui lui est en tout point opposé. Boris Johnson est aussi fantasque, brouillon et versatile que Theresa May est réservée, sérieuse et obstinée. Après une pro-européenne tiède, eh bien c'est un europhobe dur qui entre à Downing Street et qui va donc diriger le gouvernement britannique.
Et tout ça n'empêche pas quand même quelques drapeaux européens de flotter derrière vous, Delphine. Merci beaucoup Delphine. Delphine You en direct de Londres pour BFM Business avec Olivier Mélan. Et puis en France, c'est la journée des crédits d'impôt puisque Bercy va régulariser à partir d'aujourd'hui la situation des 6,2 millions de contribuables qui bénéficient d'un crédit d'impôt et qui avaient profité, c'est peut-être votre cas, d'un acompte en janvier dernier. 2,5 milliards d'euros vont être reversés au total par Bercy, mais côté contribuables, il n'y aura pas que des gagnants. Certains, au contraire, vont devoir restituer de l'argent. Les explications de Caroline Morisseau.
Bercy a fait les comptes et ce sont 2,5 milliards d'euros qui vont être restitués aux contribuables qui bénéficient d'un crédit d'impôt lié à des frais de garde d'enfants ou encore à l'emploi d'une personne à domicile. Le gouvernement avait décidé d'accorder à ces contribuables un acompte dès janvier pour les soulager dans le cadre du prélèvement à la source. Mais cet acompte a été calculé sur la base des déclarations de 2018 et donc des dépenses engagées en 2017. Et depuis, pour beaucoup de contribuables, la situation a changé. L'heure est donc aux régularisations avec à la clé de bonnes surprises. 3 millions de contribuables vont bénéficier d'un nouveau versement plus important que le précédent. A l'inverse, 1,7 million de foyers avaient reçu un trop gros chèque en janvier dernier et vont donc devoir rembourser le trop perçu.
Caroline Morisseau.